On poursuit cette émission avec l'entretien que Léo a fait avec Fanny Sauvat, co-directrice de l'association Apsitude.
La crise sanitaire a depuis un an un impact considérable sur l'ensemble de ce qui fait une vie. Des rencontres, des moments passés avec ses amis, sa famille, des projets, des loisirs, des voyages, des études. Ce contexte influence largement la santé mentale des Français et des Françaises, qui a fait l'objet d'inquiétudes, d'études et rapports parlementaires sur lesquels nous reviendrons. On va parler de tout cela aujourd'hui en se focalisant sur les étudiantes et étudiants avec Fanny Sauvat, co-directrice avec sa consœur Laurentine Véron de l'association Apsitude. Bonjour Fanny.
Bonjour.
Je te propose peut-être pour commencer par une petite présentation de l'asso. Quand est-ce qu'elle a été créée? Pourquoi ce nom et surtout pourquoi?
Alors Apsitude, c'est donc une association qui est née il y a maintenant 11 ans à Lyon et qui intervient maintenant au niveau national. L'objectif est de prévenir la souffrance des étudiants et de promouvoir leur santé mentale, justement, qu'ils puissent avoir un petit peu plus d'outils pour être en bonne santé mentale et être épanouis dans leur vie, que ce soit personnelle ou dans leur vie universitaire.
Vous êtes combien de psychologues en tout dans l'association qui vous ont rejoint au fil du temps ?
Alors, on a une soixantaine d'intervenants, une cinquantaine de psychologues, et puis on a quelques non-psychologues aussi dans l'équipe support qui vise à gérer l'association au quotidien.
Et vous avez des membres de l'association, des psychologues qui quadrillent le territoire français en couvrant les grandes villes étudiantes ?
Tout à fait. On intervient dans plus de 30 villes de France.
Concrètement, quelles sont vos missions auprès du public étudiant? On sait que la vie étudiante est souvent présentée à travers un discours très idéalisé qui ne reflète pas toujours les difficultés auxquelles sont confrontés les jeunes qui souffrent de mal-être et de pathologies psychologiques qui peuvent être assez graves.
Alors, on a différents types d'actions, à la fois des actions collectives ou des actions individuelles. On a déjà des actions de prévention qui ont pour but de faire une première opération de sensibilisation, c'est-à-dire sensibiliser les étudiants à l'importance de prendre soin d'eux, de prendre soin de leur santé mentale. On fait, par exemple, on met en place des stands dans des résidences universitaires, des restaurants universitaires ou des écoles, dans des lieux passants où on va engager un peu un dialogue informel avec eux pour un peu prendre la température. Par exemple, on travaille avec des petits tests de stress pour dire est-ce que vous vous sentez stressé, comment vous êtes en ce moment, et à partir de là, avoir des petits échanges individualisé avec eux pour faire le point, les alerter si il y a des choses qui vont pas bien, et puis aussi les orienter vers les services d'aide dont ils peuvent bénéficier. C'est aussi tout un travail aussi de déstigmatisation, finalement, de recours aux professionnels de santé mentale, parce que même si aujourd'hui les psychologues sont présents dans la vie de tous les jours, quand on doit y avoir recours soi-même, c'est parfois difficile d'accepter d'y avoir recours. On se dit peut-être c'est pas assez grave, ou il y en a d'autres qui en ont plus besoin. Donc c'est de casser aussi un peu les mythes, les idées reçues autour de ça. Et puis on a tout un pôle bien sûr de consultation psychologique pour les étudiants. Donc quand on peut plus être en prévention et que le mal-être est là, il faut quand même qu'on puisse suivre les étudiants, leur proposer vraiment un accompagnement qui soit adapté. Donc soit sur des toutes petites durées, parce que pour certains étudiants, une ou deux consultations suffisent, ou sur un temps un petit peu plus long. Et on fait aussi de la formation pour les professionnels qui travaillent au contact d'étudiants, parce que souvent ce sont eux qui reçoivent les premiers discours de la souffrance des étudiants, et c'est pas toujours simple de savoir comment réagir quand on n'est pas un professionnel de santé mentale.
Et donc c'est ce que vous venez de décrire, un panel d'activités très variées, donc qu'on retrouve sur votre site internet apsitude.com, les speed dating, les ateliers de prévention, la formation des professionnels et les consultations à destination des étudiantes et étudiants. Est-ce que c'est un panel d'activités que vous aviez initialement quand vous avez fondé l'association, ou vous l'avez varié avec face à peut-être une nouvelle demande et au vu des effectifs de psychologues qui vous rejoignaient dans ce projet?
Alors, on a relu il n'y a pas si longtemps notre projet associatif en 2010. Il est quasiment similaire à l'association telle qu'elle existe aujourd'hui. La seule chose, la dimension prévention, prise en charge de la souffrance et formation des professionnels existe. La seule chose qui a émergé un petit peu plus tardivement, c'est qu'en fait, on a deux modalités de consultation. Une modalité en présentiel, donc chez nous, ça s'appelle les Apsi Awards. Et ce qui est apparu il y a 5 ans chez nous, c'est la modalité distancielle. Donc en fait, nous, ça fait depuis plus de 5 ans qu'on développe la vidéoconsultation par webcam à distance. Donc là, c'est sûr qu'au vu du contexte, c'est quelque chose qu'on a beaucoup plus développé. de fait, parce qu'on était obligés, mais voilà, ça c'est venu au fil du temps parce qu'on s'est rendu compte que le public étudiant était un public très mobile, que parfois c'était pas toujours possible de continuer les prises en charge quand les étudiants partaient en stage dans une autre ville ou à l'étranger, ou au contraire des étudiants qui nous contactaient qui n'avaient pas de difficultés avant de partir à l'étranger. C'est justement par exemple le départ qui faisait émerger des difficultés, ou après ça pouvait être aussi tout simplement des freins trop importants à aller voir un psychologue en face à face. Du coup, le fait d'être à distance pouvait au départ en tout cas faciliter la démarche, ou des étudiants qui pouvaient aussi avoir un handicap physique ou psychique qui pouvait les empêcher de venir en face à face.
Et il y a des psychologues dans l'asso qui sont spécialisés dans plutôt la formation, la prise en charge ou la prévention, ou c'est tous les membres qui sont aptes à diriger ce genre de programme?
Non, effectivement, ce ne sont pas tous les psychologues. Après, nous, on a un programme de formation de nos intervenants en interne où, effectivement, on essaye aussi de les faire monter en compétences à certains moments sur d'autres types de missions s'ils n'ont pas l'habitude de les mettre en place et de les former. En fait, nous, on a aussi une manière de fonctionner qui est... ce ne sont pas les psychologues qui mettent en place les formations qu'ils souhaitent. Tous les contenus sont vraiment étiquetés aptitudes et donc on forme nos intervenants à ces contenus aptitudes.
À présent, nous allons aborder la thématique de la santé mentale des étudiantes et étudiants au regard de la crise sanitaire que nous connaissons depuis bientôt un an. Partout, on voit des lettres ouvertes d'étudiants qui n'en peuvent plus, des études aux chiffres alarmants sur les dépressions des jeunes. Sur Twitter, on a un hashtag étudiant fantôme qui se fait de plus en plus remarquer. Parfois, certaines et certains envisagent même de mettre fin à leur jour et finissent par passer à l'acte. Une étude menée fin 2020 par la Fédération des associations de l'Université de Lille a sondé 3000 personnes et les résultats sont les suivants. 60% des interrogés se sentent déprimés, 15% socialement isolés, 70% épuisés. Vous avez peut-être des chiffres à ce sujet pour compléter un petit peu ces derniers chiffres que je viens de citer?
Non, alors j'ai pas de chiffres à notre niveau. Le constat, effectivement, il est là. Après, il faut quand même souligner que des chiffres inquiétants concernant la dépression, on sait que les étudiants sont plus vulnérables à la dépression que la population générale, ça on le savait déjà. Voilà, il y a des enquêtes quand même qui sont faites régulièrement par les mutuelles étudiantes ou par l'Observatoire de la vie étudiante qui sont quand même déjà assez alarmantes concernant la santé psychique des étudiants. Maintenant, c'est vrai que le contexte sanitaire a sûrement amplifié un certain nombre de situations et de mal-être qui étaient préexistants, mais pour nous, ça c'est des constats qu'on fait déjà depuis un an.
Et depuis la crise sanitaire, est-ce que vous, à votre niveau, chez Aptitude, vous avez constaté une hausse significative de la demande de consultation?
Il est vrai que on a une recrudescence effectivement des demandes d'aide depuis la rentrée universitaire. Je dirais que de mars à juin dernier, on n'a pas vu ce phénomène, pas forcément d'augmentation, mais depuis la rentrée universitaire, oui.
Vous pensez que vous avez dû refuser des demandes tant vous avez été sollicité?
C'est sûr, c'est cool sur un certain nombre de lieux d'accueil, dispositifs, on a des listes d'attente qui sont assez importantes. Effectivement, on a du mal à faire face à la demande. Après, c'est vrai qu'on essaye toujours de laisser les personnes, pas de les orienter quand il y a des situations d'urgence ou d'ordonner, voilà, d'autres contacts qui peuvent solliciter. Essayer quand même d'apporter une réponse.
Est-ce qu'à tout hasard, les étudiantes et étudiants étrangers présents en France dans le cadre de programmes d'échange sont venus vers vous, ou vous pensez que c'est un public relativement minoritaire?
Alors nous, c'est en général 30% déjà de notre public accueilli sur les consultations. L'année dernière, quand on a fait le bilan à l'été, c'était toujours le cas. Là, cette année, j'ai un peu moins la vision, mais oui, on a toujours des étudiants internationaux, effectivement, assez nombreux qui nous sollicitent.
Sans bien sûr rentrer dans le secret professionnel des consultations, qu'est-ce qui ressort du discours entre guillemets de vos patients? C'est plus le manque de vie sociale, le suivi des cours à distance, le sentiment d'être délaissé? En quelques mots, vous pouvez peut-être nous en parler?
Oui, c'est différents aspects. Je dirais que c'est là encore, hein, ça vient mettre l'accent sur des difficultés qui étaient préexistantes, mais effectivement, la difficulté de se mettre dans un nouveau parcours d'études quand c'est notre première année d'études, de se motiver, de trouver du sens, là d'autant plus dans le contexte où on a du mal à se projeter dans l'avenir. Certains métiers aussi, on se dit, mais finalement, est-ce que ça a bien du sens de se mettre dans cette voie-là? Donc je crois que voilà, ça joue surtout sur la perte de sens. C'est vrai que l'isolement social des étudiants était déjà un sentiment important, la difficulté à créer des liens. Et puis là, c'est vrai qu'au vu du contexte, il y a d'autant moins d'opportunités de le faire. Donc effectivement, ça va questionner à la sortie du confinement sur comment les étudiants vont pouvoir un peu raccrocher les wagons et recréer des liens. Sachant que je pense qu'on a perdu aussi un certain nombre de réflexes de comment on est en proximité avec les autres, finalement, peut-être que ça peut faire un petit peu peur suite à ce contexte-là. Donc voilà, je pense que ça met vraiment l'accent sur des difficultés qui étaient préexistantes, le fait d'être seul, de vivre seul et de s'organiser dans son logement étudiant, ou au contraire, là, ça vient aussi jouer des choses quand on est de nouveau en promiscuité avec sa famille, avec ses parents, alors qu'on avait atteint une certaine autonomie, donc ça peut jouer des choses. Après, c'est vrai que cette deuxième année universitaire où il y a des choses qui, voilà, de nouvelles mesures, des choses qui recommencent, on voit pas trop le bout. C'est vrai qu'il y a un sentiment quand même d'épuisement. Et puis, concernant les apprentissages, la difficulté remontée régulièrement par les étudiants d'arriver à être en visio tout le temps. Voilà, quelque chose de beaucoup plus dur à suivre pour eux, garder la motivation, de suivre les enseignements, une sorte de fatigue aussi d'avoir toujours la caméra branchée. Donc, ça aussi, c'est des choses qui remontent les professeurs, la difficulté d'être face à des publics d'étudiants qui ne mettent pas leur caméra. Donc oui, je pense qu'il y a des situations assez difficiles à différents niveaux.
Et quels sont les symptômes fréquents qui apparaissent chez le public qui vous sollicite, à la fois les symptômes apparents et peut-être plus cachés, a priori plutôt non apparents, au niveau du mal-être?
Je pense que pour le coup, c'est un peu les mêmes. Hein. C'est vraiment les symptômes anxieux, les symptômes dépressifs, qui sont majoritaires, comme vous le disiez, le sentiment d'isolement, les préoccupations, les questions existentielles, en fait, qui sont déjà assez fréquentes à ce moment-là de la vie, avec une difficulté aussi à se positionner, à faire des choix pour son avenir, à une difficulté de se projeter. Donc là, c'est d'autant plus important au vu du contexte.
Je vous parlais il y a un instant des étudiantes et étudiants qui témoignent de leur mal-être sur les réseaux sociaux, oui. Notamment. À l'Assemblée nationale, une commission d'enquête a publié le 16 décembre un rapport pour, je cite, « mesurer et prévenir les effets de la crise du Covid-19 sur les enfants et la jeunesse ». Sans rentrer dans les détails, c'est un rapport de plus de 300 pages qui est public. On peut tout de même mentionner les titres de certaines parties du rapport en lien avec notre thème du jour. Un petit peu à la louche, hein, les effets négatifs du recul de l'activité physique et des déséquilibres alimentaires, un équilibre psychique et moral des jeunes à reconstruire, une crise sanitaire propice à l'apparition ou à l'aggravation de troubles psychiques, des expressions de mal-être et de fragilité chez les adolescents et les jeunes adultes, des séquelles possibles dans le développement personnel des jeunes, un discours culpabilisant, une méthode qui relègue les jeunes dans l'angle mort, une parole qui ne doit pas être ignorée. Et je pourrais multiplier les exemples, et je reviens vers toi, Fanny. C'est toute une génération qui va se retrouver durablement touchée par la pandémie. Quel regard tu portes et quel regard vous portez chez Absitude sur les perspectives de cette jeunesse?
C'est peut-être le plus dur actuellement, c'est d'essayer de mesurer et d'anticiper quelles vont être les conséquences de cette crise. Je pense qu'il y a peut-être une grosse remise en question finalement de notre mode de fonctionnement au niveau sociétal. Nous, ça fait depuis déjà plusieurs années, un ou deux ans je dirais, qu'on a déjà des jeunes qui se posent beaucoup de questions sur comment fonctionne le monde, des préoccupations sur le climat, sur l'éco-anxiété. Donc et il y a pas mal de jeunes qui font le lien avec la crise sanitaire qui nous occupe. Donc je pense que cette question du sens et du fonctionnement de notre société va peut-être faire bouger un petit peu les lignes. Là aussi, sur la manière d'être en lien les uns avec les autres, encore une fois, je pense que cette crise, elle va peut-être marquer un avant et un après dans les relations qu'on a les uns aux autres. Après, c'est vraiment que des hypothèses, peut-être nos propres projections, nos propres peurs, mais on a un peu du mal à anticiper quels vont être les effets durables de cette crise.
Chez Absitude, j'imagine que vous allez rester entre guillemets mobilisé pour encore de longs mois pour aider ce public à s'en sortir.
Tout à fait, oui. Alors, nous, on n'a absolument cessé aucune activité depuis le premier confinement. Dès les annonces en mars dernier, on a pu, comme je le disais, basculer tous nos accueils présentiels en vidéoconsultation. Voilà, on mobilise des moyens effectivement supplémentaires aussi pour prendre en charge les situations d'urgence qui peuvent arriver, se déclarer au niveau de notre secrétariat. Donc oui, et puis bon, dans les effets, on va dire les bénéfices secondaires de cette crise, on a de plus en plus de voilà d'institutions, d'écoles, de partenaires qui accélèrent le mouvement, même s'il y avait une prise de conscience déjà de la nécessité d'agir pour la santé mentale des étudiants. Voilà, là le contexte fait que ça peut accélérer aussi la mise en place de certains dispositifs. Et donc il faut qu'on retienne aussi ça, c'est que dans cette crise, ça permet aussi la mobilisation de moyens pour faire avancer les choses.
Et ça fera donc un chantier de plus pour les mois à venir, en plus de la crise économique sociale qui s'annonce. Pour conclure, tu as peut-être un petit message de soutien à transmettre aux étudiantes et étudiants qui nous écoutent, et peut-être particulièrement à celles et ceux qui ne se sentiraient pas bien et qui souhaiteraient être prises en charge.
Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est un contexte pas facile. On est isolé. Je crois que même si on a du mal à être en contact avec ses proches, voilà, ne pas hésiter à rester en lien le plus possible. Et s'il y avait le moindre doute, un mal-être qui dure depuis un moment, dont on n'arrive pas à se sortir, même s'il y a une morosité ambiante, voilà, il faut quand même pouvoir se préoccuper et faire appel à un professionnel. Voilà, si ça dure plus de 15 jours et qu'on se sent pas bien. Voilà, mieux vaut faire appel à un professionnel pour aller mieux et enrayer les difficultés rapidement.
Et les consultations, les services proposés par Aptitude sont gratuits?
C'est complètement offert, effectivement, par nos partenaires, oui.
Très bien. Eh bien, écoute, Fanny, je te remercie d'avoir présenté Aptitude et d'avoir commenté avec nous cette crise sanitaire qui n'en finit pas et qui affecte bien sûr tout le monde, mais aussi les jeunes. On a choisi de mettre la focale sur les jeunes dans cette interview. On espère en tout cas que tout cela s'arrangera le plus rapidement possible. Et on vous souhaite à toi et Aptitude du courage dans la poursuite de vos travaux au sein de l'association. Je le rappelle, donc possibilité de découvrir l'association et d'être prise en charge sur le site aptitude.com pour demander un suivi. Merci Fanny d'avoir répondu à nos questions.
Merci.